I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Je suis Thibaut et on se retrouve de nouveau en confinement pour parler d'une année de ciné en particulier. Notre invitée du jour est réalisatrice de plusieurs courts-métrages et chargée de diffusion pour le cinéma et la télévision, mais également fan inconditionnel de Stanley Kubrick. C'est Isabelle Laurent. Salut Isabelle.
Bonjour Thibaut. Je suis ravie.
Comment ça va?
Ça va plutôt pas mal, malgré la période.
Ça va, tu es prête pour parler de cinéma pendant une heure et demie
Avec toi, toujours.
Ah, et bien, écoute, c'était un plaisir partagé. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à l'année la plus récente jamais traitée dans cette émission. C'est un exercice effectivement délicat, parce qu'on manque peut-être un petit peu effectivement de recul pour pleinement apprécier cette année-là, mais que ça ne nous empêche pas d'essayer. Au programme donc, une année Cannes pas comme les autres, le duo Tarantino-Paul Thomas Anderson, la renaissance du mythique format 70 mm et la question primordiale des femmes réalisatrices dans le cinéma français. Mes amis, l'année 2012, c'est parti. Souvenez-vous, vous dansiez sur ça en 2012, Down the Road du groupe C2C. Et avant d'être du cinéma, 2012, c'était l'année de l'élection de François Hollande en France, de la réélection de Barack Obama aux États-Unis et de la réélection de Vladimir Poutine en Russie, mais aussi celle du jubilé de diamant d'Elisabeth II en Angleterre, 60 ans de règne, ça en fait des corgis. Bref, 2012, c'est également la fin de la série Desperate Housewives, le milliard de vues de Gangnam Style sur YouTube, et l'année de la fin du monde selon les Mayas. Pas de bol pour nous, il s'était juste gouré de 8 ans. Mais 2012, c'est aussi et surtout du cinéma, et un cinéma qui, cette année-là, vit et respire selon le tempo donné par ce que beaucoup appellent le plus grand festival de cinéma au monde, le Festival de Cannes. Une édition imposante qui en dit peut-être plus qu'il n'y paraît sur l'état du cinéma cette année-là. Bref, on est parti pour notre premier thème.
En rappelant la contribution fondamentale de ces deux acteurs principaux, Amour de Michael Haneke.
C'était donc la voix de Nanni Moretti, président du 65e Festival de Cannes qui se tenait du 16 au 27 mai 2012. Pour moi, c'est une année que j'appelle une année Cannes. Alors, qu'est-ce qu'une année Cannes? C'est une année dans laquelle le ton de l'année cinéma, on va dire, est donné par le Festival de Cannes. C'est-à-dire la majorité des grands films, des films qui restent dans l'imaginaire collectif, des propositions les plus peut-être puissantes, pertinentes de l'année, vont venir du Festival de Cannes. Alors ça ne veut pas dire que dans les autres festivals du même acabit, genre Berlin ou Venise, les films ne sont pas intéressants, mais ils sont peut-être un peu plus en retrait. Et une année Cannes, on en a eu récemment, puisque 2019 peut être catégorisé comme une année Cannes, puisque c'est quand même l'édition du festival en 2019 où on a eu le droit à des films comme Parasite, Once Upon a Time in Hollywood, Douleur et Gloire, Portrait de la jeune fille en feu, Les Misérables, bref, plein de films qu'on va après retrouver tout au long de l'année dans les palmarès, dans les discussions des gens, bref, au cœur de cette année cinéma. Le ton est donné. Cette 65e édition, ce Festival de Cannes 2012, il est donc présidé par le réalisateur italien Nanni Moretti. Et il va, en plus de décerner sa palme d'or à Amour de Michael Haneke, décerner un prix du jury à La Part des Anges de Ken Loach, décerner un prix d'interprétation masculine à Mads Mikkelsen pour La Chasse de Thomas Vinterberg, et un grand prix à Reality de Matteo Garrone. Il faut noter que la palme d'or qui est donnée à Michael Haneke pour Amour, c'est donc la seconde palme d'or pour le réalisateur autrichien après le ruban blanc décerné en 2009, qu'on pourra également compter dans la sélection officielle, le Cosmopolis de David Cronenberg. De Rouille et d'Os de Jacques Audiard, Mud de Jeff Nichols et d'autres films dont on va parler dans ce premier thème. J'ai une première question pour toi, Isabelle. Tu donnerais quoi comme tonalité? Quel visage elle a cette édition selon toi?
Il y avait de très belles promesses qui étaient faites au sein de ce festival. Et puis après, il y a eu quand même pas mal de critiques concernant les sélections, les prix qui ont été remis, les oublis, notamment pour Holly Motors de Carax. Et donc je pense que cette édition... Voilà, a été contestée, et elle a aussi été contestée par des femmes qui, enfin, en 2012, se sont dit « Mais attendez, les gars, il n'y a aucune femme au sein de votre sélection. » Et c'est peut-être anormal. Il y avait une tribune qui était parue dans Le Monde. Enfin, j'ai l'impression que toutes les tribunes sont vouées à être parues dans Le Monde. je ne sais pas si je pourrais étudier la question. Mais voilà, d'une association féministe qui avait justement tapé du poing sur la table contre ça. Et c'est vrai que quand on regarde tous les films présents à Cannes cette année, une très grande majorité sont réalisés par des hommes.
Effectivement, et c'est intéressant parce que on va sans doute en reparler dans le troisième thème de notre émission. Mais comme tu le dis, effectivement, c'est une édition qui... moi, genre, je te rejoins un petit peu sur l'idée de cette édition 2012, elle symbolise quand même ce qu'on reprochait à Cannes depuis quelques années, en tout cas en 2012, c'était que c'était quand même un rendez-vous d'habitués, de relateurs assez âgés, déjà établis, et c'était un petit peu, on visite un peu ce que les habitués ont proposé, et du coup, on va dire, les nouvelles voix, et surtout aussi, du coup, le cinéma des nouvelles voix féminines, elle n'était pas effectivement toujours présente, et cette édition 2012 le confirme parce qu'on a du Ken Loach, on a du Haneke, on a du Audiard, du Carax, bref, des gens qu'on voit déjà, qu'on a déjà vu à Cannes et qu'on revoit à Cannes, même si effectivement il y a des petites nouveautés, ça reste quand même assez limité, et je te rejoins assez par rapport à ça. C'est marrant parce que quand on a commencé à tracer un peu ce qu'allait être les thèmes de cette émission-là, on a parlé donc de Cannes et tu m'as dit oh là là, Cannes. C'est un festival et du coup on s'est posé la question de quel visage il avait cette édition là et tu m'as dit il a le visage de l'amour, tu m'as dit c'est une édition pleine d'amour. Pourquoi tu m'as dit ça?
Je t'ai répondu ça puisque plusieurs films sélectionnés en parlaient tout simplement, ouais. Mais de toute façon tout revient toujours à l'amour, tout revient toujours à la vie, tout revient toujours au cinéma. Je pense que c'est une quête éternelle de l'amour, le cinéma, et de fait, on y voit, on reconnaît ce sentiment très facilement, je pense.
Ouais. Et Cannes 2012 l'encapsule bien.
Cannes 2012, c'était De Rouille et d'Os, c'était Holly Motors, c'était, même si, pour moi, c'est le cinéma de Carax, c'est un cinéma de la vie, c'est un cinéma de l'amour aussi.
Ouais.
Il y avait Laurence Anyway, il y avait beaucoup de grandes histoires d'amour, possiblement. Impossible, en tout cas complexe, qui ont été proposés lors de cette édition.
Et il décerne sa palme d'or, Nanni Moretti décerne la palme d'or avec son jury à Amour de Michael Haneke.
Oui.
Alors voilà. Alors Amour de Michael Haneke, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est donc l'histoire de Georges et Anne, qui sont deux octogénaires. Et un jour, Anne va être victime d'une attaque cérébrale et va devenir hémiplégique. Et le film va suivre du coup le quotidien du couple et de leur amour mis à rude épreuve. Et c'est donc la deuxième palme d'or pour le réalisateur Michael Haneke. Donc Michael Haneke, pour rappeler, c'est donc un réalisateur autrichien qui a donc fait Amour, qui a donc fait Le Ruban Blanc, qui a donc fait La Pianiste, Caché également. Donc c'est un réalisateur établi. Et cette palme d'or pour Amour va amener, dans les mois qui suivent, c'est pour ça que je dis aussi que c'est une année Cannes 2012, puisque la palme d'or pour Amour va être confirmée, on va dire, dans les mois qui suivent, puisque le film va recevoir l'Oscar du meilleur film étranger, il va être nommé au meilleur film, à la meilleure actrice pour Emmanuelle Riva, il va avoir le Golden Globes, il va avoir le BAFTA, il va avoir 5 prix au César, bref. Énormément de célébrations et qui vont donc confirmer le pif du Festival de Cannes. Mais moi, j'ai envie de poser une question, c'est qu'au-delà de ces célébrations, là, on est en 2020, on est 8 ans après. 8 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de cette Palme d'Or ? On sait que les Palmes d'Or, parfois, elles restent, elles ne restent pas, elles restent dans l'esprit, elles ont une popularité ou non. Parfois, on oublie même que certains films ont eu des Palmes d'Or. 8 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de Amour ? Qu'est-ce qui reste de cette Palme d'Or, Isabelle Laurent ?
Un très beau souvenir.
Un très beau souvenir.
Oui, non, enfin, très beau souvenir. Il y avait un journaliste qui avait parlé de la notion du souvenir du futur que nous présentait Amour, et j'aime bien cette expression. Et,
c'est quoi et le souvenir du futur, futur est en...
Bah, c'est-à-dire que nous étions, bah, à travers Amour, on était projetés dans un âge qui n'était pas le nôtre à l'heure actuelle, dans une période de la vie que nous ne connaissions pas encore. Et pourtant, grâce à ce film, nous avions l'impression de déjà l'avoir vécu. Hein, en tout cas, le temps de... Enfin voilà, pendant ces 2 heures. Et je pense que le sujet est tellement universel et tellement... bien traité, sobrement traité. Enfin, mais c'est juste que certaines personnes ont pu penser ou ont pensé que le film parlait de la vieillesse ou de la maladie, l'incontinence, etc. Et à mon sens, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas parce que, enfin, je l'ai pas ressenti de la sorte. Et Haneke, qui se refuse d'interpréter le moindre de ses films, a lui-même dit ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est cette relation à l'autre, cet accompagnement à l'autre, comment... Enfin, voilà, c'est l'idée de l'accompagnement à l'autre, oui. Qu'advient-il de notre amour, de nos sentiments lors d'une situation pareille.
Je le trouve intéressante, Amour, le film Amour, je le trouve intéressant dans la carrière de Haneke, parce que Haneke est connu pour faire des drames sociaux, d'une violence assez... Enfin, assez violente, qu'on lui reproche, mais il a l'habitude de ces drames sociaux. Et je trouve que dans Amour, on a une violence qui est plus sourde, je trouve, qui est plus comme c'est un drame qui est plus intime dans un contexte, donc un couple d'octogénaires qu'on n'a pas l'habitude de voir. Du coup, ça donne à cette violence ça lui donne un aspect plus sourd, plus tranchant. Du coup, ça donne une humanité que je voyais effectivement trop peu dans le cinéma d'Haneke, en tout cas pas sous cet aspect-là. Et du coup, je le trouve Amour et intéressant dans la carrière de Haneke.
Moi, justement, quand j'ai vu Amour, j'ai eu l'impression d'avoir jamais vu ça en fait au cinéma de cette manière-là. Et je trouve que Trintignant est un acteur extrêmement touchant dans son jeu, dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente. Mmh. Et c'est un homme qui, par exemple, pour Amour, ne voulait pas faire le film. Parce que quand il a lu le scénario, même s'il voulait tourner pour Haneke, quand il a lu le scénario, il a dit « mais c'est tellement, tellement noir, c'est tellement ce que je vis, et moi je préfère me tuer plutôt que faire ce film. » Et la productrice lui a dit « bah, écoute, si tu veux, moi je t'aiderai à te tuer, mais d'abord fais le film. » Et voilà, enfin, Trintignant est merveilleux, Trintignant est encore en vie, et moi je crains beaucoup sa mort, et par exemple, ce qui différencie aussi 2012 à aujourd'hui, c'est que Emmanuel Riva nous a quittés.
Effectivement.
Et elle le dit dans un entretien, elle le dit, et c'est très joli, elle dit mon premier film qui a lancé ma carrière au cinéma, c'est Hiroshima, mon amour, et le dernier c'est Amour, le mot amour, toujours. Et je trouvais ça très beau.
La boucle est bouclée. C'est vrai qu'Haneke filme l'amour comme personne. Je te propose de continuer notre petite discussion sur Cannes 2012 avec une autre réflexion, une autre discussion, mais d'abord un autre sonore.
Qu'est-ce que vous recherchez, Laurent Zalia ?
Écoutez, je recherche une personne qui comprenne ma langue et qui la parle même. Une personne qui, sans être un paria, ne s'interroge pas simplement sur les droits et l'utilité des marginaux, mais sur les droits et l'utilité de ceux qui se targuent d'être normaux.
Cette voix, c'est celle de Melville Poupeau et c'est notre porte d'entrée dans le film Lawrence Anyways de Xavier Dolan. Je t'avoue effectivement que j'ai dû voir, Isabelle, ce film pour cette émission 2012. Hein. Lawrence Anyways, c'est un film que j'avais pas eu l'occasion de voir. Et c'est vrai que ce début, cette entrée en matière est assez saisissante puisque cette voix que vous avez entendue, c'est également quelque chose que les spectateurs au cinéma entendent puisque c'est une voix off qui est sur les crédits du film. Et donc, on a cette voix, ce grain et cette réponse de Melville Poupeau, cette phrase assassine et cette musique qui enchaîne sur 2h45 d'un film un peu fou. On a parlé de génération, bah c'est aussi une édition où les générations vont se croiser un petit peu, hein. On va avoir donc David Cronenberg qui va être là en hors compétition avec son film Cosmopolis, et on va avoir le fils de David Cronenberg, Brandon, qui va être nommé à la caméra d'or pour son film Antiviral, par exemple. Mais aussi et surtout, Cannes 2012, c'est la rencontre de deux cinémas, celui de Xavier Dolan, donc, et celui de Léos Carax, qui sont deux cinéastes qu'on a voulu, Isabelle et moi, mettre en perspective, puisqu'on trouve que ces deux générations qui se répondent. Léo Carax est donc à Cannes en 2012 avec son film Holy Motors, et Xavier Dolan est donc à Cannes avec Laurence Anyways. Alors, avant de s'attarder sur Xavier Dolan, il faut noter que Cannes 2012, c'est le retour de Léo Carax, 13 ans après Paula X, qui était déjà présenté à Cannes en 1999. Et donc, il revient avec Holy Motors en compétition officielle. J'ai envie de te poser une question, Isabelle, auquel je sais tu pourras répondre sublimement. Qui est Léo Carax ?
Bon, je parlerai plus du cinéaste, évidemment, que de sa personne, enfin, de son Bien cinéma. C'est un cinéma... justement, enfin, on parlait d'Anne. Enfin, j'aime bien faire ces petits raccourcis. On parlait de Haneke, et pour moi, Haneke, c'est un quelque part, c'est un cinéaste de la mort. Et je sais que ça donne pas très envie quand on le prend comme ça. Donc, j'évite d'introduire un mot de voilà de la sorte. Mais je trouve que contrairement à Haneke, par exemple, Carax, c'est clairement un cinéma de la vie, un cinéma très poétique, très nostalgique, un cinéma qui ose et qui a toujours osé des choses. Quant à la forme, quant au fond. Tout à l'heure, on parlait de souvenirs du futur. Et dans le premier film de Carax, Boy Meets Girl, il y a le personnage qui est joué par Denis Lavant qui parle de la notion du passé, du présent. Et je trouve que ça résume vraiment bien l'œuvre et sa temporalité, la nostalgie sous-jacente. On est vraiment dans ce présent et pourtant, on a instantanément ce recul, cette distanciation et on est en train de le contempler et de le magnifier, quoi.
Léo Carax, pour petite mise en contexte, effectivement, c'est un réalisateur des années 80-90 qui a donc réalisé des films comme Boy Meets Girl en 84, Mauvais Sang en 86 ou Les Amants du Pont Neuf en 91. Et c'est un cinéaste, on en a déjà un petit peu parlé dans un précédent épisode quand on parlait de 1985, mais qui est peut-être relié, on va dire, à la mouvance qu'on appelle du cinéma du look, qui est un mouvement, on va dire, cinématographique, qui est beaucoup influencé par la pub, le clip, et qui, on va dire, met en avant, va mettre en avant, on va dire, la musique. C'est un cinéma où on va beaucoup avoir effectivement de musique, on va beaucoup avoir un jeu sur le rythme, on va beaucoup avoir un jeu sur les émotions, au-delà de ce qu'une séquence peut avoir comme sens dans l'intrigue générale de l'histoire. Et l'histoire passe un peu, on va dire, en second plan. Et ce cinéma du look, ce mouvement du cinéma du look, on en avait déjà parlé dans un autre épisode d'Année Lumière, mais c'est un mouvement dans lequel on va retrouver des cinéastes donc comme Léo Carax, Jean-Jacques Benex et Luc Besson. On va dire que Léo Carax a une tendance à une vision poétique comme personne, donne dans ses films des séquences assez phénoménales et assez sorties de nulle part et qui touchent en plein cœur. Hein. Je pense à la séquence où dans Mauvais Sang, Denis Lavant danse sur de la musique effectivement de David Bowie, il me semble. Qu'on réfléchit beaucoup à qu'est-ce qu'un cinéma libre. Le cinéma de Léo Carax, tout comme par exemple c'est une bonne réponse. Tout comme je mettrais aussi celui de Wong Kar-wai par exemple. C'est des cinémas qui se libèrent de plein de carcans formels et de plein de conventions pour donner vraiment à voir quelque chose d'unique et de particulier. Du coup, nous on voulait effectivement relier Léo Carax à donc un autre cinéaste qui est Xavier Dolan qui arrive avec donc Laurence Anyways. Pourquoi ? Parce que alors peut-être que Isabelle, toi, tu me contrediras, mais je crois que tu es plutôt de mon avis. Je trouve que effectivement Xavier Dolan répond parfaitement bien à Carax, puisque c'est quelqu'un qui reprend beaucoup de ses codes, de ses idées, de cette énergie du cinéma du look, c'est-à-dire qu'effectivement le cinéma de Xavier Dolan, pour ceux qui nous écoutaient, je pense que vous le connaissez effectivement assez bien, c'est un cinéma qui est très très musical, qui fonctionne aussi beaucoup par séquence musicale, qui fonctionne aussi beaucoup par rythme et qui fonctionne aussi sur cette idée que le ressenti d'une séquence vaut plus que son sens après tout véritablement. Et ce qui est assez drôle, c'est que Léo Carax, tout comme effectivement Xavier Dolan, sont deux enfants du Festival de Cannes, puisque c'est deux vrais cinéastes qui ont grandi, qui ont vu leurs films respectivement atterrir assez régulièrement dans le Festival de Cannes. Toi, tu m'avais dit que Laurence Anyways est un film formidable. Et du coup, tu l'avais revu. Non, mais tu m'avais dit. En tout cas, t'étais très enjaillé à l'idée effectivement de parler de Laurence Anyways.
Déjà, à l'idée de parler de Dolan.
Pourquoi effectivement t'étais contente de parler de Dolan dans cette émission-là déjà?
Parce que comme beaucoup, même si il reçoit aussi un bon nombre de critiques, je pense que c'est quelqu'un de d'admirable et j'aime beaucoup. Enfin, son cinéma est toujours. Une grande joie pour moi, tout simplement, et j'aime bien ce qu'il dit, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien comment il le fait, je trouve que c'est un bel exemple pour notre génération, je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite, Et même s'il ne les reconnaît pas toujours, a beaucoup de références aussi. Et de fait, c'est aussi cool pour d'y voir d'autres cinémas, de reconnaître certaines références, quoi. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime.
Bien sûr, oui, effectivement. Et puis Xavier Dolan, donc, pour le rappeler, c'est quelqu'un qui a donc réalisé des films comme J'ai tué ma mère, donc Laurence Anyways, Mommy, Juste la fin du monde, Les amours imaginaires, Tom à la ferme, etc., etc. Donc tous ces films qui ont déjà été effectivement assez régulièrement au Festival de Cannes, mais qui ont respectivement marqué régulièrement leur public. Et surtout, comme tu l'as dit, c'est un cinéaste qui est générationnel. Oui. Alors peut-être parce que nous, effectivement, on a son âge, donc on prend son cinéma de plein fouet, véritablement.
On a son âge, mais on n'a pas fait 8 longs métrages.
Oui, mais bon, ce n'est pas une course, Isabelle, ce n'est pas une course. Et du coup, pour revenir du coup à Laurence Anyways, donc toi qui étais assez contente de parler de Xavier Dolan et assez contente de parler de Laurence Anyways, tu l'as donc revu pour le podcast.
C'est quand même les débuts de Dolan, c'est un peu le film quand même marquant qui arrivait à Cannes et qui n'était pas en sélection officielle, mais qui aurait dû l'être, etc. Mais en l'ayant revu, en fait, j'y ai vu des défauts, une seconde lecture. J'ai surtout trouvé ça, au-delà du côté clipesque, entre guillemets, de son film, j'ai surtout trouvé ça trop long. Et dans le
2h45, c'est long.
Et c'est drôle parce que dans le film, il y a le personnage de Melville qui dit, Proust explique en 300 pages, je ne sais plus quoi, que Thérèse encule Tatane, bref. Ouais. il lui reproche sa longueur. Et ben, je trouve aussi que pour parler de cette histoire, il aurait pu ne pas être aussi long, en fait. Et j'y vois un peu, enfin, il y a un peu ce côté, je vais faire un grand film, un chef-d'œuvre. Il y a des choses que je peux reprocher à Dolan, qu'on ressent bien quand même dans ce film, et un maniérisme. Et,
une vanité, voilà. Un peu.
Ouais. Et je préfère Dolan quand il est, comme dans son dernier film, moins dans la forme, plus sur le fond.
Plus humble, peut-être.
Plus humble, oui, même si on lui a beaucoup reproché, enfin, quelque part. Enfin, oui, enfin, il y a des choses très bien dans Laurence Anyways qu'on a perdu ailleurs. Je pense qu'il aurait pu raconter la même histoire en ne la racontant pas sur un délai de 10 ans comme il l'a fait ici.
Effectivement, le Laurence Anyways, c'est donc l'histoire de Laurence qui est donc un homme, qui est donc Melville Poupeau, qu'on va donc suivre Laurence dans sa transition d'homme à femme. Et donc, comment cette transition va agir sur l'amour et sur le couple que Laurence a avec sa compagne de l'époque, effectivement, et leur amour sur plusieurs années. Donc c'est aussi, comme on l'avait dit dans la première partie de notre thème, un film du coup sur l'amour et sur les différents visages de l'amour. Hein. Ça rejoint effectivement. On a d'un côté on a Amour de Michael Haneke où on a ses octogénaires.
L'amour de soi, l'amour de l'autre.
Voilà, etc. Et d'un autre côté on a Laurence Anyways qui nous parle de effectivement, comment est-ce que c'est d'aimer, est-ce que c'est facile d'aimer, est-ce qu'on peut s'aimer tout en changeant chacun de notre côté ? Le postulat de départ que tu posais au début de ce thème, qui est Cannes 2012 est une édition de l'amour.
Une année d'amour.
Je te rejoins parce qu'effectivement, ça nous pose une diversité de regards sur ce thème-là qui est assez, assez passionnant et assez, assez spécial. Toutes les éditions ne sont pas aussi concentrées sur un même thème. Alors peut-être qu'en 2012... les gens avaient besoin de voir des histoires d'amour et voir qu'elles réussissent ou pas, en tout cas qu'elles se vivent à l'écran. Et ça a été le cas à Cannes en 2012. Voilà. Il nous reste à continuer dans le second thème de notre émission. Et dans une autre thématique, on va partir aux États-Unis. Cette musique flottante, cette musique, ça me fait rappeler un peu Camille Saint-Saëns, ça me rappelle un peu cet air bondissant et flottant et éthéré du début du siècle dernier. C'est donc la BO, la bande originale du film The Master de Paul Thomas Anderson, également film de 2012. Et pourquoi on parle de The Master de Paul Thomas Anderson ? Eh bien, parce qu'il sort en même temps et la même année qu'un autre film d'un autre cinéaste, qui est Django Unchained de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, c'est donc deux cinéastes qui vont exploser, dont la carrière a explosé dans les années 90, et dont on peut effectivement assumer qu'ils sont de la même génération d'auteurs américains. qui est apparu dans les années 80 et 90 que les frères Cohen, qui sont un petit peu plus vieux, mais qui rentrent dans cette génération-là, comme Catherine Bigelow, comme Stefan Soderbergh, comme même David Fincher ou Gus Van Sant. Et donc, d'un côté, on a donc Django Unchained, qui est donc le septième film de Tarantino, après Inglourious Basterds en 2009 et avant Les Huit Salopards en 2015, et The Master, qui est donc le sixième film de Paul Thomas Anderson, après There Will Be Blood en 2007 et avant Inherent Vice en 2014. Quel est ton rapport au film, toi, de Paul Thomas Anderson et de Tarantino, de ces deux cinéastes-là? Quel est ton rapport, honnêtement, hein,
En fait, Paul Thomas Anderson, c'est très simple. C'est toujours une petite appréhension, en fait, à aller voir les films qu'il faut aller voir, les grands films qui sont décrits comme des chefs-d'œuvre.
Bien sûr.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une petite peur, en fait, à y aller. Comme si je n'allais pas être à la hauteur de ces films.
Oui, on parlait de ces cinéastes générationnels.
Oui.
Tarantino et Paul Thomas Anderson, un peu moins, mais Tarantino est un cinéaste générationnel. Ouais. S'il y en a qu'un, c'est bien lui. L'émission t'a amené à découvrir The Master, donc de Paul Thomas Anderson. Quel a été comment s'est passée cette découverte de The Master?
Non, elle s'est faite en douceur et avec beaucoup de fascination. Et vu les acteurs, en fait, monstrueux qui sont dans ce film, on ne peut qu'aimer. Et je trouve qu'il y a une importance folle qui est donnée aux personnages. Et du coup, on les suit. Puis moi, j'ai une fascination pour tout ce qui a un peu attrait aux sectes, à la psychanalyse, à la psychiatrie, etc. Donc forcément, ça réunissait quand même pas mal de mes penchants, entre guillemets.
Pour rappeler, The Master est donc un film qui raconte, qui suit donc Freddy, qui est un vétéran et qui de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et qui revient en Californie après s'être battu dans le Pacifique. Donc c'est un film qui se passe dans les années fin 40, même années 50. Il est alcoolique, très violent, et il va rencontrer Lancaster Dodd, qui s'appelle donc surnommé le maître, un homme charismatique, meneur d'un mouvement nommé La Cause. Alors moi, ce qui m'intéressait effectivement pour réunir ces deux cinéastes, au-delà qu'ils viennent de la même génération et de la même scène américaine, donc d'un cinéma très auteur, Quentin Tarantino et Paul Thomas Anderson, sont deux cinéastes qui adorent, qui aiment à revisiter une certaine histoire souvent violente des USA, des États-Unis. On peut voir que dans les films de Tarantino, on va revisiter les années 70, on va revisiter le 19e siècle et le western avec Django Unchained cette année-là. Et chez Paul Thomas Anderson, on a également un retour au 19e siècle américain avec There Will Be Blood. On va aller revisiter la post-Seconde Guerre mondiale avec donc The Master. On va revoir les années 70 avec Inherent Vice, qui est pas très très loin d'An Once Upon a Time in Hollywood. Leur cinéma, effectivement, dialogue, discute. Mais c'est aussi deux cinéastes qui sont animés par un seul et même concept, qui est l'idée même d'une expérience de cinéma totale, on va dire. C'est deux cinéastes qui sont d'accord sur l'importance de la salle, de la projection en pellicule et de l'événement séance de cinéma. Tarantino, par exemple, il est proprio d'une salle de cinéma qui s'appelle le New Beverly Cinema à Los Angeles. Et Paul Thomas Anderson va tourner donc en 2012 The Master en pellicule 65 mm pour permettre du coup une projection en 70 mm. Donc The Master va être un film qu'on appelle communément un film 70 mm. Et là, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que c'est que le 70 mm? Le 70 mm, déjà, c'est un format de projection qui est aux dimensions impressionnantes et à la qualité assez exceptionnelle. Le 70 mm, c'est donc une image plus large, une image plus grande. On connaît le numérique 2K, on connaît le numérique 4K. Le 70 mm est équivalent à une qualité qui oscillerait entre le 12 et le 18K. Ça vous donne des coups, une idée de la qualité d'image que peut proposer effectivement ce format. Alors, juste pour effectivement donner un petit contexte, dites-vous que le 70 mm n'est pas né effectivement en 2012, n'est pas né effectivement même dans les années 60 ou 70, comme on va le voir, mais déjà, les Frères Lumière tournaient déjà en 70 ou à 75 mm dès les débuts du cinéma. C'est juste que le standard 35 mm, pour des raisons de coût et de praticité, on va dire, s'est installé plus durablement. Problème, dans les années 40, la télévision va arriver, alors là c'est un grand danger pour le cinéma puisque les spectateurs risquent de ne plus venir dans les salles et donc il faut proposer une alternative. Le cinéma doit donc redevenir une attraction et c'est donc là qu'on va voir apparaître doucement des formats panoramiques qui vont avoir des noms un petit peu doux, un petit peu flambant neufs comme Cinémascope, VistaVision. Et du coup ça va être des formats effectivement qui vont toujours avec cette pellicule 35 mm proposer des images plus large, plus haute, plus impressionnante que le 4 tiers, le format carré habituel du cinéma standard des années 20, 30, 40, etc., etc. On va connaître dans les années 50 un format qui s'appelle le cinérama, qui nécessitait effectivement 3 caméras au tournage et 3 projecteurs 35 mm à la projection, et qui offrait côte à côte, c'est comme si vous mettiez 3 écrans de cinéma côte à côte, ça vous offrait un écran effectivement assez phénoménal. Tout va changer en 55, puisque va arriver un homme qui s'appelle Michael Todd, qui était donc un ancien technicien du cinérama, qui va arriver avec son invention, le Todd AO, un procédé plus simple avec une seule caméra de tournage et un seul projecteur de projection et une pellicule de 70 mm. Les studios vont embrasser cette nouvelle technologie 70 mm et vont avoir du coup des systèmes comme le Panavision 70, la Super Panavision 70, bref, des caméras qui vont pouvoir donner effectivement une expérience cinéma inédite. Le cinéma va redevenir un événement et le public va retourner en salle et ça va faire un énorme paquet d'argent. Il y a énormément de films qui ont été tournés et projetés en 70 mm. Parmi eux, on peut citer Ben-Hur, on peut citer West Side Story, on peut citer bien sûr Lawrence d'Arabie et un film que toi, tu vas sans doute apprécier particulièrement puisque 2001, Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick est un film projeté en 70 mm pour une expérience effectivement assez folle. Pour vous faire effectivement la suite de l'histoire un petit peu plus courte, la technologie est une technologie qui coûte de l'argent et qui est donc réservée à des grosses productions et des réalisateurs reconnus. Et ça coûte effectivement très très cher de produire ces films-là. Donc au fil des décennies, 80-90, ce type de production va disparaître, ce format va disparaître, jusqu'à 96 où le dernier film entièrement tourné en 70 mm, Hamlet de Kenneth Branagh, va être diffusé largement au cinéma. Les années 2000, des cinéastes qui vont en partie tourner leurs films en 70 mm. On va voir Terrence Malick qui va tourner quelques séquences seulement du Nouveau Monde en 70 mm ou quelques séquences sûrement seulement de The Tree of Life dans ce format-là. On va voir Scorsese qui va tourner quelques séquences de Shutter Island dans ce format-là. Christopher Nolan qui va tourner quelques séquences pareil de The Dark Knight en 70 mm. Et il va falloir attendre donc 2012 et The Master de Paul Thomas Anderson pour qu'un film soit tourné en grande majorité en 70 mm, puisque 85% du film est tourné dans ce format-là. Et donc, ça donne effectivement une expérience assez folle. Hein. Il faut savoir que Paul Thomas Anderson n'a pas choisi ce format-là par hasard. C'était pour coller à une époque, l'époque du film, les années 40-50. C'est donc du coup complètement lié à la thématique du film. Et il faut savoir que quand The Master sort en 2012, ça a un impact majeur, puisque comme je l'ai dit, c'est le premier film depuis plus de 15 ans à sortir dans ce format-là. Et il a une reconnaissance critique d'un côté, il est Lion d'argent à Venise, il a 3 nominations aux Oscars, et il sort surtout, il sort dans près de 800 salles aux États-Unis, donc dans une majorité en 35 mm, mais dans de nombreuses salles en 70 mm. Et donc, pour la première fois depuis 15 ans, on va avoir un film, The Master, qui va toucher un public mainstream, toucher effectivement tout un public qui jusqu'à présent ne connaissait pas forcément ce format. Et ça, c'est important, puisque le 70 mm, pour la première fois depuis 20 ans, n'est plus une technologie de niche. The Master a littéralement pavé la route à une meilleure exploitation de ce format, puisque Tarantino, en 2015, va tourner son 8 salopards en 70 mm. Et on va voir apparaître ce format exceptionnel, hein, je le répète, dans des grosses productions comme Jurassic World, Star Wars, chez Xavier Dolan d'ailleurs, puisque plusieurs séquences de Ma vie avec John F. Donovan sont tournées en 70 mm, Dunkerque de Christopher Nolan, No Time to Die, le prochain James Bond, plusieurs séquences sont aussi dans ce format-là. Bref, non, on peut effectivement se poser la question, pourquoi ? Pourquoi effectivement c'est important d'avoir remis ce format-là au devant de la scène. Paul Thomas Anderson a répondu à cette question qu'on va se poser quand une journaliste lui a demandé « Mais est-ce qu'il faut voir The Master en 35 mm ou faut-il le voir dans son format dans lequel il a été tourné en 70 mm ? Est-ce que ça a vraiment du sens ? Est-ce que ça a vraiment de l'importance ? Est-ce qu'il faut voir The Master en 70 mm ?» Paul Thomas Anderson répond.
Yeah, no, I mean, does it matter? If you're into that kind of thing, you'll probably love it. You know, you'll be able to feel a slight difference if, you know, but it's ultimately no. I mean, listen, I've loved movies that I've watched on my phone, I hate to say, and I've loved movies that I've seen in theaters. I mean, it's a hard thing nowadays, and hopefully, you know, the people that love to go to the movie theaters love to go to the movie theaters, and we kind of have hopefully presented this option that if you want to dig it this way, it's there for you. And I prefer it. I enjoy it. I think it's a more well-balanced meal, just in terms of the way that it kind of comes through the projector and the light and things moving around. And I prefer it, but certainly doesn't mean you're not going to like the movie if you have to see it another way. It shouldn't matter. I mean, I remember like seeing like these guys like hovered around a garage and watching Saving Private Ryan on this like little teeny black and white TV. And these guys were just loving the film in a parking garage in South America. And they were completely into it. They didn't need a big screen. They didn't need whatever hi-fi sound and all that. They're just digging the film.
Bah, la question qu'on se pose, Paul Thomas Anderson lui répond: peu importe, c'est pas grave, moi j'aime bien, moi je préfère, mais peu importe comment vous voyez The Master en 35, en 70, sur votre téléphone ou sur votre Apple Watch, peu importe comment effectivement on va voir le film. Du coup, Isabelle, pourquoi ce format? Pourquoi est-ce qu'il faudrait voir des films en 70 mm?
Enfin, déjà, il y a des cinéastes aussi, même si Paul Thomas, enfin, par exemple, moi je pense à Carax depuis le début, parce que lui, pauvre Carax, ne peut plus tourner en pellicule comme il le souhaiterait. Et pour lui, c'est la fin, c'est coûteux, c'est trop cher. C'est coûteux, c'est trop cher, et c'est réservé aussi, de fait, à une certaine élite, entre guillemets, et d'autres cinéastes souffrent terriblement du numérique et reprochent la plasticité des images qui ne peuvent même pas supporter, concevoir. Et c'est terrible pour eux, parce qu'ils font ils peuvent encore faire du cinéma grâce au numérique, mais sans grande conviction. Étant plus quelqu'un qui a évolué dans l'ère du numérique, je connais assez mal les différences techniques et je pense que... Enfin, j'adore la réponse que vient de nous faire Paul Thomas Anderson, en fait. Enfin, en même temps, lui, évidemment, il va pas dire le contraire, parce que son film est exploité sur tout un tas de médiums. Mais
c'est intéressant que quelqu'un qui fasse un film en 70 mm qui est censé dire « Allez voir mon film, je me suis cassé la tête pour faire des cadres, pour faire une réalisation, pour
bien
faire
sûr.
Une composition en 70 mm. » Et vous pouvez le voir sur un téléphone. Non. Et du coup, ça pose la question de savoir est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de voir des films. Ça, c'est une bonne question.
Des films, des vidéos qui sont conçues aujourd'hui pour un format téléphone dans des pays asiatiques, etc. Enfin, pourquoi pas? Il faut effectivement, être pertinent, être cohérent, en fait, quant au mode de production. Mais moi, je trouve ça génial qu'ils disent... qu'il ne fasse pas cet obsédé, cet obsessionnel de son film, qu'il ne va pas supporter qu'un de ses cadres ait pu bouger, etc. Moi, je préfère cette idée-là. Et j'aime l'idée, encourager les gens à aller voir le film de cette façon-là, et puis dire, si vous contentez de ça, mon histoire sera toujours la même sur votre téléphone ou ailleurs. Donc,
c'est un débat qu'on a régulièrement, qu'on va voir Scorsese qui passe sur Netflix.
Oui.
Ou d'autres films, effectivement, de qu'on a habituellement estampillés grand cinéma, des grands films de cinéma qu'on va voir effectivement sur les plateformes. En plus, là, on est en confinement, donc on est tous sur nos ordinateurs à voir des films sur nos ordinateurs. Et donc forcément dans des conditions qui ne sont pas celles d'un cinéma, la question pose de, effectivement, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de voir des films? Et toi, tu dis non.
Bien sûr. Il y a pas de... Oui, moi, par exemple, en ce moment, je ne suis pas quelqu'un vraiment qui aime les écrans. Et de fait, en ce moment, je n'ai plus d'écran et j'attends d'avoir un rétro pour pouvoir voir des films. Et en attendant, évidemment, je vais les regarder sur mon Mac, même si je me désole parfois de ce format et de cette qualité. Mais je préfère voir les films ainsi que de ne pas les voir.
Oui, ce serait un peu hypocrite de dire non, mais je ne vois les films qu'au cinéma. Les films, on les aime, on les voit. Et puis, qu'importe le flacon.
Oui, je comprends que certaines personnes s'en offusquent. Hein, mais par exemple, en ce moment, nos cinémas sont fermés. Il nous faut
voir des films.
Ouais, il nous faut bouffer.
Il nous faut bouffer des films.
Donc, évidemment, moi, je préfère manger dans un grand hôtel, etc., plutôt qu'un plat de pâtes chez moi. Mais de toute façon, ce plat de pâtes, je vais le bouffer parce qu'il faut que je m'alimente.
Alors, pour aller à l'encontre de Paul Thomas Anderson lui-même, peut-être, et pour aller à l'encontre de le sens de notre discussion, moi, j'ai eu la chance, mais comme beaucoup qui nous écoutent, je pense, de voir des films, effectivement, dans ce format 70 mm. Notamment, il y a 2 ans, effectivement, à Cannes, où avait été proposé 2001 Odyssée de l'espace en 70 mm. Et je dois avouer que c'était l'une des meilleures projections à laquelle j'ai pu assister de ma vie entière. Par la teneur du film en lui-même, parce qu'effectivement, voir 2001, c'est toujours une célébration et toujours un événement en soi. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi qui avais déjà vu le film 2001, Le revoir ici dans une salle de cinéma, donc en plus à Cannes, dans une salle qui est l'une des meilleures d'Europe, et en plus en 70 mm, c'était une expérience. Il y a vraiment le côté expérience sensorielle phénoménale, puisqu'en plus tu vois le film dans les conditions dans lesquelles Kubrick l'a voulu. Donc
ah
avec,
non, mais c'est génial!
Et donc tu vois le film dans ces conditions-là.
Optimal.
Et je suis sorti, j'étais secoué, j'étais en train et j'ai regardé la personne avec qui j'étais, et j'ai dit je connais le film, je l'ai vu des dizaines de fois et pourtant j'ai l'impression d'avoir vécu le film pour la première fois. Comme pareil. Et c'est vrai que ce sentiment d'événement de voir un film où la séance de cinéma est un événement en soi, avec une image qui dépasse toutes les dimensions auxquelles on est habitué, qui nous dépasse nous, qui nous enrobe, qui nous englobe. C'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai envie de nuancer un peu ce qu'on a dit. Alors moi, je suis le premier à voir des films sur mon ordinateur et effectivement, j'ai vécu des choses et j'ai vu des films formidables sur mon ordinateur. Mais waouh, mais l'expérience cinéma,
hein,
mais ces films se sont et c'est ce que dit aussi un peu Paul Thomas Anderson. Il dit: si vous voulez le voir sur votre téléphone, c'est bien. Moi, j'aime bien le voir en 70 mm. Et en fait, ce qu'il dit peut-être, c'est l'importance de proposer une diversité d'expériences cinéma. De garder effectivement cette diversité, de garder cette proposition. Pour ceux qui veulent le voir en 70 mm, ils peuvent le voir. Et pour ceux qui veulent le voir sur leur téléphone, ils peuvent également aussi le voir. Moi, je te rejoins un petit peu. Tant que les films sont vus, moi, j'ai été cueilli par des films que j'ai vus dans des conditions pas forcément idéales, et pourtant, j'ai été cueilli.
Différemment.
Et c'était une autre expérience.
Ouais.
Enfin, je conseillerais à ceux qui n'ont jamais vu un film en 70 mm de s'offrir ça. Moi, j'ai un film qui est un grand classique, qui est Laurence d'Arabie. Je n'ai jamais vu Laurence d'Arabie de ma vie. Alors, j'ai vu effectivement des images, etc., etc. Laurence d'Arabie, je l'ai en Blu-ray chez moi, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais ouvert. Pourquoi ? Parce que je veux découvrir Laurence d'Arabie au cinéma. Je pourrais l'ouvrir et je pourrais le regarder sur mon Blu-ray et sur ma télé, mais j'ai envie de le découvrir, le film, pour la première fois dans une salle de cinéma. Est-ce que toi, t'as ça, toi, Isabelle,
un
film que t'as envie de garder pour le cinéma, parce que tu sais que t'as envie de découvrir ce film-là dans un cadre particulier?
Tout à fait. Enfin, il y a des films, en tout cas, tout à fait. Il y a plusieurs films que j'ai loupés au cinéma, entre guillemets, et que je me refuse de voir parce que je sais que ça serait pas cohérent. Bah, par exemple, 2001, c'est marrant parce que t'arrêtes pas d'en parler. Et 2001, en fait, je l'ai vu, mais enfin, petite, il y a très longtemps, en VHS, c'était un peu dégueulasse, etc. Et de fait, j'en ai gardé que très peu de souvenirs et j'ai toujours refusé de revoir 2001 dans des conditions autres qu'optimales. Et j'en ai pas vraiment l'occasion. Enfin, je me suis pas donné l'occasion de le faire. Ouais.
Tu te gardes 2001 pour une redécouverte de 2001, tu te la gardes.
Et pourtant, comme
pour
toi, j'ai l'impression de bien connaître le film parce que j'ai lu des choses sur Kubrick, etc. Donc, il y a une connaissance et une familiarité avec une œuvre, mais qu'on n'a pourtant pas réellement vue.
Et pourtant, rappelons-le, tu es une grande fan de Stanley Kubrick. Hein, donc, effectivement.
Fait.
Et tu as découvert 2001 et tu as vu 2001 uniquement sur une VHS pourrie. Ben voilà, regarde comme quoi tout arrive.
Je suis une grande fan de Kubrick. Hein, c'est peut-être un peu prétentieux, je ne sais pas. Hein, c'est juste que c'est un cinéma qui m'émerveille et qui m'a fait un peu découvrir l'art en général. Et du coup, je suis toujours émerveillée devant le génie.
Ouais,
mais voilà, 2001, c'est un film que je garde. J'avais jamais vu Blade Runner. Je l'ai vu dans des conditions optimales au British Film Institute à Londres.
Formidable.
Voilà, enfin, c'est des moments de vie où on se dit, oh là là, c'est quand même fou.
On vibre avec Vangelis, quoi. On est...
Exactement.
C'est drôle de discuter de cette année 2012 où on a du coup cette renaissance du 70 mm avec The Master.
Ouais.
Et d'en discuter alors qu'on est en confinement et qu'on est tous obligés de voir des films sur nos écrans d'ordinateur, et que le film qui espère réouvrir le marché des salles aux États-Unis, c'est Tenet de Christopher Nolan, qui a été tourné lui en partie aussi en 70 mm. Donc la promesse de retour au cinéma, de retour à la salle de cinéma, c'est aussi effectivement un film qui a été tourné en partie en 70 mm. Et par Christopher Nolan, je trouve que c'est un symbole assez fort. Genre, revenez au cinéma, regardez, vous allez redécouvrir, entre guillemets, vous allez ouvrir les œillères dans lesquelles on était bloqué depuis 2 mois en confinement. Et je trouvais ça drôle que le cinéma propose de redécouvrir un monde. Mais bref, drôle d'en discuter. Bref, voilà. Très bien, mais parfait, voilà ce qui conclut notre second thème sur cette question épineuse et ô combien importante de la bonne ou mauvaise façon de voir des films. Bref, au final, on vous laisse vous faire votre idée. et on s'engouffre et on file vers le troisième thème et dernier thème de notre émission. Étrange que celle qui vient d'arriver dans nos oreilles, c'est la musique du film Dracula de Francis Ford Coppola, une musique qui apparaît également dans la bande originale d'un autre film sorti en 2012, français, et qui va être au cœur de notre troisième thème, puisque ce film c'est Augustine, réalisé par Alice Winocourt, sorti le 7 novembre 2012, un film qui compte à son casting Vincent Lindon, la chanteuse et actrice donc Soko, ou Chiara Mastroianni. Augustine qui raconte l'histoire en 1885 du professeur Charcot, qui étudie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière une maladie mystérieuse qu'on appelle l'hystérie. Un jour arrive une jeune fille de 19 ans, Augustine donc, qui va devenir son cobaye, sa cobaye préférée. Et l'objet d'étude va au fil du temps se muer en objet de désir. Toi, Isabelle, tu m'avais dit que ce film Augustine, il est intéressant de par son sujet, puisque c'est un film sur le regard de la science sur la femme, mais également un film sur le regard de l'homme sur la femme. Alice Winocourt, donc la réalisatrice, va, via ce film-là, un peu lier les deux. Et donc, moi, ce que je trouve amusant dans ce film-là, et j'aimerais ton avis là-dessus, c'est que Augustine, c'est une femme, Alice Winocourt, qui filme des hommes, qui regarde une femme.
Mais oui, tout à fait. Enfin, choisir ce sujet, choisir de parler de l'hystérie, montre évidemment une envie de la part de la réalisatrice de mettre en scène un sujet relatif à une sorte de combat féministe. En tout cas, évidemment, la femme est objet du regard masculin qui est sujet. Ici, le professeur Charcot et sa troupe de la Salpêtrière. Et on nous en montre le spectacle. Et c'est intéressant de voir comment le désir de la femme, enfin d'ailleurs la femme fascine en même temps qu'elle effraie l'homme dans le film, et on peut voir le film comme une grande métaphore au-delà du sujet sur l'hystérie, sur les études de Charcot et de son possible amour, de sa possible fascination pour sa patiente Augustine, qui s'appelait d'ailleurs Louise de son vrai nom. Et voilà, ça en fait un film évidemment dit féministe. Enfin, je trouve ça très, très troublant, mais moi ce que je retiens...
Pourquoi tu dirais féministe par exemple Pourquoi tu dirais que c'est un film féministe? De par son sujet seul ou
Oui, enfin, par son sujet, par ce qu'il représente, oui, bien sûr, enfin, sans révéler le dénouement du film. Il y a tout d'un coup le désir de la femme qui est confrontée à celui de l'homme, la femme objet qui devient à un moment donné sujet. C'est une sorte d'héroïne moderne, ce personnage. Ah. Et moi, je dis pas d'un film qu'il est féministe, hein, je suis pas vraiment là-dedans, mais il est évident qu'il y a un regard de femme sur une femme qui s'émancipe et qui le fait avec beaucoup de fierté.
Oui, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui a pu être traité auparavant par d'autres, ou en tout cas un sujet similaire qui a pu être traité par d'autres, et souvent c'était des réalisateurs masculins. La question se pose de savoir, effectivement, est-ce que le sujet regardé, filmé différemment que s'il est filmé par un homme ou par une femme? Qu'est-ce qu'il a ce regard d'Alice Winocourt? C'est une question un peu rhétorique, mais y a-t-il vraiment un regard féminin de cinéma?
Je pense que effectivement la question est un peu trop rhétorique pour que
j'ai
la prétention d'y répondre. Moi je comme je ne dis pas d'un cinéma qu'il est féministe, je reconnais simplement le fait, parce que c'est un fait objectif, que c'est une femme qui a réalisé et que ça se sent, c'est évident. Comme, enfin, on peut ressentir aussi de la masculinité chez une femme et on peut sentir de la féminité dans le cinéma d'un homme. On pense à Dolan dont on parlait tout à l'heure, par exemple.
Bien sûr.
Mais ce que je trouve, enfin, le cinéma d'Alice Winocourt, il est encore une fois dit féministe parce qu'elle le dit elle-même, parce que c'est évident par ses activités aussi annexes. Elle fait partie du collectif 50-50, dont on peut reparler après. Mmh. Enfin, elle a des engagements, elle milite en ce sens. Son troisième long métrage qui est sorti là il n'y a pas longtemps sur
Proxima.
Voilà, Proxima, sur l'histoire de cette astronaute féminine. Enfin, c'est évidemment un film purement, enfin, qui célèbre la femme qui peut d'un côté s'adonner à sa passion et à son travail, et de l'autre être mère. Moi, ce que j'adore dans Augustine, c'est son érotisme. Il y a une atmosphère, une ambiance, il y a un érotisme féminin qui est proclamé et qui est magnifique. Et le personnage d'Augustine est magnifique. C'est magnifique la façon dont une femme peut baiser un homme, tout simplement. Ouais. Prendre un sujet comme l'hystérie, l'hystérie historiquement a toujours été considérée comme une maladie féminine. Et c'est drôle parce que dans le film, j'adore ce moment où la femme de Charcot, qui est jouée par Mastroianni, lit un article de Maupassant où il revient sur un fait divers et où il parle de l'hystérie et il dit... Vous parlez d'hystérie, mais je parle simplement de femmes.
Ouais.
et en même temps, on rigole, évidemment, parce que nous-mêmes, je pense, en tant que femmes, on se sait parfois hystérique. Et les hommes, c'est peut-être une autre névrose dont il s'agit. Je ne sais pas, il faut rigoler, il faut rire de soi.
C'est vrai que c'est intéressant que Alice Winocourt en ait fait le sujet de son premier long métrage, parce que c'est son premier long métrage, elle avait fait des courts métrages avant. Mais du coup, quand elle se retrouve aux rênes, on va dire, de son premier long métrage et au scénario et la réalisation, elle décide de parler de ce sujet-là qui est effectivement très teinté de ces questions de la femme, de la place de la femme dans la société, de l'histoire de la femme dans la société, qui est une histoire effectivement lourde. Donc c'est pas anodin véritablement. Du coup, on se sert de ce film-là, Augustine, comme prétexte, on va dire, un petit peu pour parler de quelque chose de plus large au cœur de ce troisième thème. Qui est la question des femmes réalisatrices en France, et particulièrement d'une génération arrivée à l'orée de ces années 2010, une nouvelle génération de femmes réalisatrices françaises, dans laquelle on va du coup trouver Alice Winocourt, on va trouver Rebecca Zlotowski, on va trouver des réalisatrices comme Mai Wen, Mia Hansen-Love ou Céline Sciamma, bien sûr, et c'est des réalisatrices qui sont toujours encore présentes en 2020, hein, ou récemment, effectivement, puisqu'on a eu récemment plus que jamais, puisqu'il y a eu le sublime portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma l'année dernière, il y a eu Une fille facile de Zlotowski l'année dernière également, il y a eu Proxima de Alice Winocourt, donc c'est une génération assez riche, femme réalisatrice française qui arrive dans ces années 2010. On que dire de cette génération et où est-ce qu'elle en est, cette génération, 10 ans plus tard?
Mais surtout, au-delà de cette dimension féministe politiquement complexe à aborder d'ailleurs, moi je trouve ça très réjouissant de voir des femmes qui réalisent, tout simplement.
Exactement, tout à fait. Parce qu'on pose la question du regard féminin, d'avoir effectivement un regard féminin sur les choses, alors qu'on vient de se taper 125 ans de cinéma. Avec un regard majoritairement masculin, donc ça fait effectivement c'est marrant parce que on peut parler effectivement de Portrait de la jeune fille en feu qui a soulevé les passions l'année dernière et encore cette année
pour un tas de sujets,
mais ce film-là a posé véritablement la question du regard féminin, puisque on l'a souvent comparé à Kechiche, qui filmait également un couple lesbien, et puis du coup les gens ont fait une comparaison, peut-être un petit peu abrupte, mais ils ont fait une comparaison entre deux films qui filment, on va dire, le même motif, qui est du coup un couple lesbien, et on pouvait du coup voir effectivement cette différenciation. Et Céline Sciamma,
elle s'est toujours ancrée dans cette question-là,
et elle en était même à défendre le regard de Kechiche et dire qu'il ne pouvait y avoir un regard féminin que s'il y avait effectivement aussi ce regard masculin, et notamment de Kechiche.
Voilà, c'est cette théorie du genre dont on nous parle sans cesse, quoi. Au-delà du fait qu'il y a un homme d'un côté et une femme de l'autre, il y a des choses très masculines chez la femme et inversement. C'est un beau mélange.
C'est complexe, c'est pas tracé dans le sable au milieu, il n'y a pas une ligne, machin. C'est comme beaucoup de choses, un prisme.
Je crois que l'être humain est plus complexe que ça. Mais j'aime bien aussi des réalisatrices qui se reconnaissent pas dans ces questions strictement posées à la femme qu'elles sont, des cinéastes comme Mai Wen, etc. Qui ont une simplicité dans leurs réponses, qui sont pas dans quelque chose de trop vindicatif, qui font du cinéma, qui le font très bien. Et voilà, on reste dans cette conception un peu autoriste des choses liées à notre pays, mais au-delà de la réalisatrice, il faut regarder aussi les listes techniques des films et se rendre compte qu'il y a effectivement des choses à faire quant au chef de poste.
Là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je permets de te couper, parce que du coup, ça va être la question que je vais te poser. Effectivement, pour vous donner un peu de contexte, encore une fois, cher auditeur, c'est qu'en 2012, il y avait 23% de réalisateurs français qui étaient des femmes. Qui étaient des réalisatrices, 23%. Et en 2017, on arrive à 27% des films réalisés, longs métrages et courts métrages mélangés, qui sont réalisés donc par des femmes. Trop légère augmentation. je dirais, une stagnation même, et qu'entre 2008 et 2017, il y a quand même 17 films réalisés ou co-réalisés par des femmes qui ont dépassé le million de spectateurs en France. On peut citer donc La Rafle, on peut citer Police de Mai Wen, on peut citer LOL. Et le dernier petit chiffre que je pourrais donner, comme tu l'as aussi commencé à le dire, Isabelle, les femmes représentent 40% des effectifs qui travaillent dans la production audiovisuelle de fiction en France. Pour vous donner une idée, en Europe, la France est mieux dotée, on va dire, respecte mieux cette parité-là, mieux qu'en Italie, et mieux qu'en Espagne, et mieux même qu'au Royaume-Uni.
Mieux qu'en Italie, c'est pas étonnant.
C'est pas étonnant, ni en Espagne d'ailleurs, mais, ouais. Mais le Royaume-Uni, c'est peut-être un petit peu étonnant, mais la France est un peu mieux à ce niveau-là, mais moins bien, bien sûr, que les pays du Nord, qui ont toujours à ce niveau-là une légère avance. Moi, j'ai envie de poser la question à Isabelle Laurent, qui est réalisatrice, qui a réalisé plusieurs courts-métrages, et tu avais commencé effectivement à le dire. Question de chef de poste, question d'équipe technique, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans ces 10 prochaines années pour véritablement amorcer le changement et voir plus de femmes, voir plus de parité dans ce milieu audiovisuel français?
Ben moi, j'aurais pas vraiment l'intention de répondre à ça parce que pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas dans une activité militante, je suis plus dans une sorte de combat individuel sur la chose. Mais en tout cas, je suis quand même l'actualité féministe, entre guillemets, si je veux résumer la chose.
Oui, bien sûr.
Des actions qui sont intentées dans notre pays. Cannes, qui a été signataire, qui a été les premiers signataires de cette charte relative à l'égalité, à la diversité. Pour ce qui concerne les festivals les concernant, le collectif 50-50 qui a été fondé en 2018 par des productrices notamment qui réfléchissent à toutes ces actions à intenter pour qu'effectivement toutes ces équipes soient plus diversifiées, pour que dans les comités de sélection d'aide à la production, etc., il y ait aussi plus de à tous les niveaux pour qu'il y ait plus de diversification sans tomber non plus dans des extrêmes.
À noter que la parité dans la commission du CNC, dans les commissions du CNC qui attribuent les aides du cinéma français, ouais, aux œuvres, aux scénarios qui vont être produits, aux films, etc., dans cette commission du CNC, la parité est respectée depuis 2 ans, il me semble, depuis 1 an ou 2 ans. Donc on a effectivement 50% de femmes, 50% d'hommes dans ces commissions du CNC qui, du coup, naturellement, a vu une résurgence, une meilleure répartition de ses films et du coup une percée un peu plus, une évolution bénéfique des films réalisés par des femmes dans ces dernières, ouais, années.
Mais comme sans, tu sans dis, tomber ouais, dans, il ne faut pas, non, tomber dans l'extrême. Mais je ne pense pas que, contrairement à ce qu'on pense, toutes ces femmes soient extrêmement là. Mais je trouve ça très honorable, en tout cas, que des femmes puissent investir de leur temps sur de telles questions.
Et si cette logique-là, on va dire, de mettre à des postes importants de cette diversité-là pouvait avoir le même levier sur le on va dire, un cinéma plus féminin, ce serait forcément bénéfique.
Je pense que quand même la France est en avance, grâce à ses actions, la France est en avance par rapport à d'autres pays concernant la question, mais plus simplement... Enfin, c'est juste qu'on a... Enfin, les femmes sont parfaitement capables de réaliser, ont un point de vue comme tout être humain et une sensibilité bien à elles. Et on ne peut qu'espérer, effectivement, de continuer à suivre les films des cinéastes qu'on connaît et que de nouvelles arrivent.
J'espère et je croise les doigts et je ne saurais que rajouter à cette belle phrase qui conclut notre troisième thème. Isabelle, merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'est trop cool.
Avant de vous abandonner, chers auditeurs, on passe comme d'habitude par notre petit tour du monde, qui va être un petit espace qui nous permet très très rapidement d'évoquer les films qu'on aime particulièrement et dont on n'a pas eu la chance de parler pendant tout le reste de l'émission. C'est parti pour le tour du monde. Donc voilà le petit tour du monde de fin d'émission, de fin d'épisode. Toi, Isabelle, tu voulais nous parler d'un film en particulier. Quel est ce film de 2012, Isabelle ?
C'est le deuxième long-métrage de Joachim Trier qui s'appelle Oslo 31 août.
Ah, qu'est-ce que c'est Oslo 31 août ? Qu'est-ce que ça nous raconte ?
Oslo 31 août, ça raconte un dernier jour d'été dans la vie d'un jeune homme qui est en fin de cure de désintoxication, un ancien donc toxicomane, qui revient à la ville pour un entretien d'embauche. Et cette journée va lui permettre de revenir un peu sur son passé, sur son présent et sur son possible avenir.
D'accord, donc c'est un film norvégien.
Absolument, oui.
Et pourquoi il faut absolument le voir, selon toi ?
Il faut le voir parce que c'est très beau, très poétique. Ça dit des choses qui me semblent assez justes, même si toute subjectivité est relative, sur la vie, un film qui parle de l'existence, qui nous rappelle un peu que les choses peuvent être belles. Et voilà, on pourrait croire à un petit film et ça aborde des questions existentielles, des choses très belles, très grandes et... On est dans une sorte de légèreté grave, c'est une expression que j'aime bien. Mmh. Et voilà, c'est vraiment un film qui, pour moi, est très plaisant, car léger, grave, et en plus, il a une fabuleuse bande originale.
Voilà, Oslo 31 août de Joachim Trier. Pour ma part, pour continuer ce tour du monde, ma petite suggestion, ma petite recommandation, souvent, je pense que ceux qui nous écoutent, vous êtes un peu comme moi, vous avez des attentes par rapport à un film, vous attendez quelque chose d'un film, avant même de l'avoir vu, vous pouvez vous attendre à avoir quelque chose de plutôt mauvais, plutôt bon, bref, cette fameuse question des attentes du spectateur. Et moi, j'allais découvrir le film Jack Reacher de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise. C'est un film qui était passé assez inaperçu à sa sortie. Je m'attendais pas à grand chose en regardant Jack Reacher avec Tom Cruise. Et j'ai été étonnamment et merveilleusement surpris de voir que c'était un très très bon film et une très belle surprise que ce Jack Reacher. On s'attend à avoir un actionneur un petit peu bourrin, un petit peu bas du front, un thriller un petit peu banal, lambda, qu'on pourrait rentrer dans une case assez aisément. Et pourtant, ce Jack Reacher, il est tout sauf ça. Jack Reacher, c'est un film qui est donc écrit par Christopher McQuarrie, qui est donc le scénariste de Usual Suspect et qui est donc le réalisateur de ce film-là et qui va réaliser plus tard les dernières Missions Impossibles avec Tom Cruise et qui nous livre effectivement avec Jack Reacher un thriller épuré au maximum. Toutes les figures, tous les motifs du thriller typique qui vont apparaître, mais épurés, vidés de leur essence au maximum. On a quasiment que des coquilles vivent devant nous et ils sont vidés pour mieux qu'on revienne à leur essence même et pour mieux qu'on revienne à ce qui les motive simplement. Du coup, on a un thriller complètement, qui va au cœur de son genre, qui va au cœur de ce qu'il est. Il y a un casting de fou, il y a donc Tom Cruise bien sûr, mais on va aussi avoir Rosamund Pike, on va aussi avoir Werner Herzog qui va être le méchant idéal de ce film. Werner Herzog en acteur est toujours un bonheur à voir, et là ça confirme ce que je dis là. On va avoir l'acteur David Oyelowo qui va jouer un policier qui est formidable, on va avoir Robert Duvall, on va avoir bref un casting qui est formidable et perd une flopée de plans assez fous. Donc ne vous arrêtez pas à ce que Jack Reacher, le film Jack Reacher pourrait vous évoquer. Il est étonnamment bien plus que ça et il pourrait tout aussi vous surprendre comme il m'a surpris. C'est vraiment une très très bonne surprise, c'est ma recommandation. Jack Reacher de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise. Voilà qui conclut notre petit tour du monde, voilà qui conclut notre escapade à travers l'année 2012 de cinéma. On a parlé d'énormément de choses, on a parlé de quoi ?
D'amour.
On a parlé de Festival de Cannes, on a parlé d'amour de Michael Haneke, on a parlé d'amour au sens général, bien sûr. On a parlé de Lawrence Anyways, on a parlé de l'Oscarax et de son retour avec Holly Motors. On a parlé du cinéma américain avec Paul Thomas Anderson et The Master et de Tarantino avec Django Unchained et de ce format 70 mm si spécial. On a également parlé de Augustine d'Alice Winocourt et de cette nouvelle vague de réalisatrices françaises qui est prometteuse et qu'on attend de voir encore plus dans les années qui viennent. Et on a évoqué Oslo 31 août et Jack Reacher à l'instant. Isabelle, merci beaucoup d'avoir été mon invitée pour cet épisode sur 2012. Merci beaucoup d'avoir donné ta voix et d'avoir donné ta réflexion sur tous ces films et toute cette année magnifique. Il me reste à remercier nos chers auditeurs d'avoir suivi cet épisode, de vous rappeler que si vous avez aimé cet épisode et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à partager cet amour sur les réseaux, Twitter, Facebook, bref, l'épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast, n'hésitez pas à le partager, c'est toujours un plaisir d'avoir des retours. Merci à tous, merci beaucoup, et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Allume Lumière. Salut, salut.